Mesdames, messieurs, Yel, bonjour. Ici Monsieur Côté et voici 3 pour toi. 3 actualités pour t'informer, mieux comprendre, t'inspirer et commencer la semaine en beauté. Le printemps étant arrivé, on commence avec une nouvelle qui est apparue dans le journal La Presse. C'est le bilan du World Happiness Report 2024 sous la plume du journaliste Vincent Brosseau-Pouliot. Ça a été publié, mardi le 20 mars ou mercredi. Peu importe. Eh bien, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, le World Happiness Report, qui est en fait une étude, un sondage fait par la firme de sondage Gallup, eh bien, nous apprend que pour la 7e année consécutive, eh bien, la Finlande est le pays qui a les gens les plus heureux. Alors, comment fonctionne le sondage? Eh bien, on va poser des questions aux gens dans environ 100 quelques pays de la planète, 142 je crois, et on va leur demander sur 6 aspects, qu'est-ce qui est selon eux dans leur pays, qu'est-ce qui va bien au niveau de la générosité, est-ce que vous percevez qu'il y a une corruption qui est basse dans votre pays, est-ce que vous sentez libre de faire des choix de vie importants? Est-ce qu'il y a réellement une bonne espérance de vie dans votre pays? Est-ce que le support social environnant est bon? Et est-ce que, en fait, le PNB, le produit national brut par habitant, est excellent? Alors, on fait le calcul et ça va donner un chiffre sur 10. Alors, quelles sont les remarques? Eh bien, la firme avec le World Happiness Report, eh bien, il nous donne, évidemment, en première position et depuis 7 ans consécutifs, la Finlande. Et ça va nous donner un chiffre sur 10 de 7,74 sur 10. On remarque aussi que le top 10 est particulièrement inchangé. Si on fait le résumé des positions, ben en 10e position, on retrouve l'Australie avec une note de 7. En 9e position, c'est la Suisse avec une note de 7,06. En 8e position, c'est Luxembourg avec 7,1. En 7e position, la Norvège avec 7,3. 7,31, les Pays-Bas en 6e. En 5e position, on met des bémols là-dessus parce que semble-t-il que ça aurait baissé de 1 sur 10. Mais on retrouve Israël avec 7,34. En 4e position, c'est la Suède avec 7,344. En 3e position, top 3, c'est l'Islande. En 2e position, on retrouve le Danemark avec 7,58. Et 3 devant, la Finlande avec 7,741. En bas de la liste, si on va vérifier au tout dernier rang, eh bien, on retrouve sur les pays mesurés en 143e position, c'est ça, en 143e position, c'est l'Afghanistan qui se retrouve avec un score de 1,7. Et en 142e position, c'est le Liban avec un 2,7. Et puis après ça, on retrouve plus haut le Lesotho, un peu plus haut le Sierra Leone, le Congo, le Zimbabwe, bref. Voilà. Alors, remarque à dire, ben dans le top 10, on retrouve généralement, ça va être des pays démocratiques, plutôt riches, où la scolarisation est bonne, où il y a un excellent filet social. Et évidemment, ben, les gens ne sont pas en guerre. Alors, voilà un peu la recette du succès. On remarque que dans le top 10, peu de changements, mais dans le top 20, il y a eu du mouvement, notamment peut-être le plus important, ben, les États-Unis ont quitté pour la toute première fois dans le sondage, ils ont quitté le top 20 et ils se retrouvent, eux qui étaient les États-Unis anciennement en 15e position, je pense, eh bien, ils sont maintenant en 23e position. Voilà. Et c'est la première fois depuis 2013. Le sondage a été fait depuis 2013. Ils sont également dans le top 20. On a perdu l'Allemagne qui est tombée en 24e position. Et là, les pays qui en ont profité, eh bien, c'est la Tchéquie, la Lituanie et la Slovénie qui sont des pays de l'Europe, anciennement Europe centrale, Europe de l'Est. Voilà, où on se dit plus heureux. Autre remarque à dire, selon les sondeurs, eh bien, il y a une différence entre les gens plus âgés, donc le baby boom et les plus vieux, qui, eux, vont se considérer plus heureux, et les moins de 30 ans, les 30 ans et moins, eh bien, dans l'ensemble, ils sont un quart de point, le 0.25, ils se donnent 0.25 de moins sur 10. En général, ça se remarque pratiquement partout dans le monde. Pour le Canada, pour nous, eh bien, on se retrouve en 15e position. On a reculé de deux positions avec, on estime, un 6,9 sur 10. Si on va un peu plus loin, on demande d'aller plus loin, le journaliste Brousseau Pouliot nous dit que les chiffres sont disponibles au Canada parce que l'Université de Colombie-Britannique a fait l'étude et on aurait au Québec la meilleure note canadienne avec un 7,33. Ça nous placerait en 6e position mondiale devant les Pays-Bas, la Hollande, si nous étions pour être classés parmi les pays du monde. Voilà, alors peut-être la solution, démocratie, éducation, pas de guerre, la diplomatie. Et ben, au bas de la liste, ben, on remarque que généralement, plus malheureux, ben, les pays qui ne sont pas très démocratiques ou en guerre, tels le Liban, l'Afghanistan, le Liban, ou un des rares pays au monde où la population est en baisse et où la politique se fait plus par groupe social ou par clan que démocratiquement. Et ça amène des troubles. Les gens choisissent de quitter. Le Liban est un des rares pays de la planète dont la population est en baisse. Voilà. Y a-t-il autre chose à dire? Moi, je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, pourquoi on en parle? Ben, pour savoir où est-ce qu'on fait les meilleurs choix dans le monde. Quels sont les endroits? Et est-ce qu'on peut imiter leur recettes? Et en fait, qu'est-ce qui contribue au bonheur, hein? Liberté de choix de vie, se sentir libre, percevoir de la générosité, peu de corruption dans notre pays, une bonne espérance de vie, un support social, et évidemment, ben, un bon revenu, hein? Un produit national brut bien réparti par habitant. Et pourquoi on en parle? Ben, félicitons les Canadiens qui vont bien, et particulièrement les Québécois, et ceux qui choisissent de vivre au Québec en adoptant les bonnes habitudes, hein, des habitudes qui sont, on va le dire, gagnantes. Voilà, nouvelle numéro 2, et eh bien, contrastant avec la nouvelle numéro 1, on avait mardi, et c'est relaté dans la presse, le 19 mars, dans la presse du lendemain, et eh bien, nous avons le bilan 2023 de l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, qui fonctionne à l'ONU pour coordonner les diverses recherches météorologiques climatiques mondiales. Eh bien, ce sont des chiffres qui sont produits par la NASA, l'Université Berkeley, la NOAA, la National Oceanic Organization des États-Unis, et Copernicus, qui regroupe les données du climat de l'Union européenne. Alors, première grande remarque, eh bien, on remarque que les chiffres sont clairs. Il y a péril, puisque nous approchons très bientôt le 1,5 degré Celsius de réchauffement. Seconde remarque, eh bien, en 2023, les émissions de gaz à effet de serre, notamment du gaz carbonique et du méthane, qui est encore plus, qui cause encore plus le réchauffement climatique, l'effet de serre, le méthane, eh bien, ils ont obtenu des niveaux records pour cette année. Troisième remarque, eh bien, les recherches au niveau des océans, ben on a atteint également des niveaux records de hauteur des mers qui malheureusement vont augmenter. Donc la chaleur de l'eau a augmenté. Puisque lorsque l'eau réchauffe, eh bien, ce réchauffement va augmenter la densité de l'eau diluée avec du sel, etc. Et aussi, ben, l'eau, le niveau des océans, des mers, augmente à un niveau record cette année, puisqu'il y a eu aussi fonte des glaces. Donc, c'est ça la raison. Peut-être l'autre remarque... La cinquième, eh bien, on sonne l'alerte rouge. Il faut absolument changer nos habitudes de consommation, nos habitudes de vie de tous les jours qui contribuent à hausser les gaz à effet de serre. Voilà, c'était la recherche. Et je termine avec la troisième nouvelle qui impacte. Oui, non, allons-y, pourquoi c'est important? Eh bien, parce que l'environnement, eh bien, c'est notre affaire à tous, c'est l'affaire de nos politiques, c'est l'affaire de nos sociétés. Si c'est nous qui avons causé ce réchauffement, eh bien, on peut se mettre d'accord tous pour effectuer le mouvement contraire. Voilà, troisième nouvelle, eh bien, dans un article publié dans la presse, le journaliste Patrick Lagacé, dimanche le 24 mars, nous a publié un titre qui nous parle de l'impact du cellulaire dans la vie de tous les jours. Le titre de l'article, c'est « Nos vies de fous ». Et bien, le journaliste Lagacé nous explique comment la vie des jeunes et des parents a été impactée, la vie moderne, au tournant des années 2000, avec l'arrivée des écrans, du cellulaire, évidemment d'Internet, mais surtout des cellulaires et des réseaux sociaux. Il raconte que lui aussi, comme la plupart des parents, ont tranquillement confié à leurs jeunes des écrans, en commençant par les tablettes et finalement les cellulaires, avec les impacts que ça a donné. Ensuite, il va relater différentes recherches, différents avis de spécialistes, de chercheurs, en terminant avec le docteur pédiatre, spécialiste médecin pour les enfants, les ados, le docteur Jean-François Chicoine. Et là, celui-ci va y aller d'une longue remarque, et là, je vous en fais la citation. Le téléphone intelligent a achevé de bousiller l'enfance telle que devrait, comme l'enfance devrait se vivre, dans le réel. Il impacte la façon dont on interagit avec d'autres humains en jouant ou en se chamaillant, en négociant et en collaborant. Le temps passé entre les enfants dans le vrai monde réel a chuté de moitié aux États-Unis depuis une décennie. Alors, Jean-François Chicoine, ça fait 40 ans qu'il est pédiatre, et bien il dit ça bousille le développement des enfants, ce cellulaire et les réseaux sociaux. Et il y a trois remarques importantes qu'il fait. Premièrement, ben, dans les années 70-80, avec la hausse du niveau de vie, ben, il y a eu un niveau d'individualisme qui n'existait pas tellement avant. Et là, on va surprotéger nos enfants, on va les couver, on va les couver de plus en plus, les suivre et de moins en moins les laisser explorer le monde extérieur, puisqu'on a les moyens de les surveiller et de les garder proches. Deuxièmement, ben, la montée des écrans dans la vie des enfants, dit le docteur Chicoine, ce n'est pas l'Internet qui a vraiment tout changé, lance le pédiatre, c'est le téléphone mobile et les réseaux sociaux. C'est autour de 2008 que l'enfance a pété, dit-il. Et troisièmement, la pandémie qui a multiplié les recours aux écrans pour les petits et grands, ainsi que la tendance à s'isoler à la maison. Prends espèce de télétravail, dit-il. Les enfants reviennent à la maison, les parents sont en pantoufles à travailler. La pandémie en a rajouté une couche sur l'enfermement. On est si bien à la maison. Il y a Netflix. On commande tout ce qu'on a besoin avec Amazon. On se fait livrer le poulet par DoorDash, etc. Voilà. Et le responsable de la santé publique des États-Unis, qu'on appelle le Surgeon General, ben, détaille aussi les mêmes choses et dit qu'on ne devrait jamais confier un cellulaire à un enfant de 13 ans et moins. Voilà. Les enfants ne devraient pas être sur les réseaux sociaux avant 14 et 16 ans, selon leur maturité, leur maîtrise de soi. Mais malheureusement, ils ont accès au téléphone, et le problème actuellement, c'est que les enfants reçoivent des téléphones branchés sur les réseaux sociaux à 8, 9, 10 et 11 ans, même si, selon les règles, on n'a pas le droit d'y faire partie avant l'âge. Voilà, le docteur Chicoine ainsi que le journaliste ne se fait pas d'illusions. Hein. Ce n'est pas facile pour les parents d'aller contre la mode, les habitudes, etc. Et d'interdire le cellulaire aux enfants. Et d'ailleurs, ben, on dit plus loin, ben, le docteur Chicoine, c'est lui qui va jouer au méchant, hein, le bad cop, comme on dit dans le texte. Et il dit, ben, dans le bureau, je dis au petit jeune homme, qu'il appelle Martin pour l'exemple, ben, t'as 13 ans, tu prends deux médicaments. t'as pas beaucoup d'amis, tu fais peu de sport, tu grossis et t'es de plus en plus myope. Ça va mal à l'école, tu dors mal. Alors, je te prescris à toi, à tes parents, de couper le téléphone. Je le fais, dit-il, parce que c'est trop difficile pour les parents, c'est pénible pour eux. Et il intervient et dit aux parents qu'il faut stopper la tendance des enfants de s'enfermer et il faut qu'ils aillent jouer dehors, il faut qu'ils aillent au musée, en forêt, etc. Bref, les enfants, ça doit jouer avec d'autres enfants. Puis on rappelle que le jeu actif chez les enfants, ben, c'est environ 3 heures par jour avant l'âge de 7 ans, ce qui, je me doute bien, ce n'est pas ce qui se produit. Voilà. Et en conclusion, ben, je vais aller avec une constatation moi-même de prof. Eh bien, lorsque je demande aux élèves dans les classes vers quel âge vous avez obtenu votre appareil, votre premier cellulaire, etc., bon, on me dit souvent 14, 15 ans, etc. Mais plusieurs me disent ben, 12, 13, des fois moins. Et lorsque je leur demande dans 15 ou 20 ans, vous allez avoir des enfants, est-ce que vous allez leur remettre le téléphone plus jeune ou plus ou au même âge que vous l'avez eu, eh bien, à chaque fois, la majorité de mes groupes répondent qu'ils vont donner le cellulaire à leurs enfants plus tard et même beaucoup plus tard que ce qu'eux ont eu. Alors, eux-mêmes qui sentent qu'ils adorent le cellulaire, hein, qu'ils l'aiment, qu'ils n'aiment pas s'en faire priver, bien, ils remarquent quand même qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose qui semble ne pas fonctionner. Et ben, on se le dira, les recherches de plus en plus tendent à prouver qu'il y a un problème. On voit de plus en plus des corrélations entre le malheur, la tristesse et la montée des pensées suicidaires, dépressives et la montée des cellulaires et des réseaux sociaux. Voilà, terminons en beauté. Eh bien, je vous suggère fortement d'aller voir le magnifique spectacle intitulé « Slap » de Robert Lepage. C'est le mariage du cirque et de la lutte. Cirque, lieu de tous les étonnements. La lutte, le miroir des combats et des espoirs de nos vies. Avec en plus l'union de la vidéo lepagienne. On sait qu'il est bon avec la vidéo et toutes les possibilités du théâtre. Et là, on encourage le public à participer, ce qui rend la présentation festive à souhait. Un véritable tableau de Duchamp en mouvement. Il faut voir le passage du concierge, qui est un équilibriste de haut vol. Ce tableau avec l'ensemble de la musique, véritablement sublime. Encore une fois, soulignons la beauté. Allez voir l'incroyable spectacle Slap de Robert Lepage. Nul doute qu'il y aura des prolongations et que ça fera probablement le tour du monde. Slap. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, rejoignez-nous à balado.3enchiffrepourtoi@commercialgmail.com. Maintenant qu'on a fait le tour, on vous souhaite une bonne semaine. C'est à vous de jouer!